RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous en ce 9 mars 2019. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. On va passer cette matinée ensemble, 6h-10h, le week-end des experts. Et ce sera comme ça aussi demain, dimanche, avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra à partir de 7h pour 3 heures d'automobile, vous le savez. Au menu de cette matinée, la vie numérique, tout à l'heure, avec Raphaël Grably, la forme, la santé, Christian Ricca sera là, Christian PC pour le bricolage, la maison, la déco. Et on commence par le jardin, the king of the garden on this Saturday. Il est là, c'est Patrick Mulan. Monsieur Miu Miu, bonjour.
Monsieur François, bonjour. Je vais pas prendre d'accent anglais, je vais faire très mal. Et donc, je vous dis à tous bonjour, bienvenue au jardin. Et oui, le printemps se rapproche. Faut encore un petit peu méfiant, mais ça va.
C'est le 21, hein?
Alors ça, c'est le printemps.
Sur le calendrier.
C'est plutôt le 20, je crois.
Le 20 ou le 21, ouais.
Et j'ai toujours dit que le printemps jardinier, c'était plutôt vers le 10 avril.
D'accord.
Quand même.
D'accord, bon, on n'y est pas encore. Hein. En tout cas, bienvenue, une heure de jardin, c'est maintenant sur RMC avec Patrick. On attend vos questions, vous pouvez bien sûr à tout moment nous joindre. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio, bien pratique, hein, votre smartphone branché. Vous pouvez nous envoyer un message via l'appli RMC, il arrive en temps réel. Ici même dans ce studio, laissez-nous aussi votre numéro de téléphone. Au menu, tout à l'heure on va parler des semences. Eh bien écoutez, on va essayer d'en finir avec les idées reçues sur les semences, Patrick.
Oui, parce qu'on mélange un petit peu tout, les hybrides, les OGM, est-ce qu'on peut faire ses graines soi-même, est-ce qu'on se fait pas arnaquer avec en achetant des graines dans le commerce, etc., etc. Donc là, on va essayer de présenter exactement comment ça se passe, parce qu'en fait, c'est un peu le trésor du jardinier, quand même.
Ouais, c'est ça.
Les graines. Et il y a beaucoup de variétés, on va parler aussi de la sélection variétale, l'amélioration quand même des variétés. Important.
On en parle tout à l'heure, ça sera notre gros sujet de ce samedi matin. Vos coups de cœur, hein, Patrick, on évoquera entre autres la 15e édition d'une opération qui s'intitule une jonquille pour Curie.
Oui, voilà, c'est une opération caritative où alors on achète des jonquilles, qu'elles soient en pot, qu'elles soient coupées, etc.
Ouais.
Et il y a de l'argent qui est redonné pour Curie, et puis aussi on parlera de Truffaut qui est le gros sponsor de cela, et
d'accord,
vous pouvez faire aussi des dons dans les magasins.
Parfait. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts de jardin. Dans un instant, nous aurons Jacqueline qui nous attend d'ores et déjà au 32-16. Mais pour l'heure, c'est le rosier.
Ah tiens, aujourd'hui, j'ai fait tailler le rosier de l'arrière-cour parce qu'il en avait drôlement besoin. Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
Ah bah, c'est
bah non, on va pas vous raconter notre journée quand même.
Où est-ce qu'on a trouvé ça? C'est extraordinaire.
Ah là là, c'est Kaamelott. Vous savez cette série sur M6 qui est tellement drôle là, je me souviens plus du nom de la comédienne mais qui est excellente. Enfin bref, on va vous donner maintenant un maximum de conseils pour bien tailler les rosiers. Est-ce que ce mois de mars est la période idéale pour tailler les rosiers, Patrick?
Bah écoutez, oui, normalement c'est vraiment la période vraiment critique, je dirais, parce qu'on peut avoir commencé un tout petit peu plus tôt, surtout quand on a vu à quel point le mois de février avait été quasiment printanier. Donc on a eu quand même une poussée de sève, et effectivement il faut quand même tailler en ce moment, alors plutôt les rosiers qu'on appelle les remontants, les variétés remontantes, les modernes, on va dire, alors que les rosiers anciens, les rosiers non remontants, donc sont de préférence taillés, eux, après la floraison, c'est-à-dire à la fin juin, début juillet.
Patrick, je pense qu'il est important de préciser à tous ceux qui nous écoutent et qui sont débutants ce que sont les rosiers remontants, justement.
Oui, parce qu'on confond souvent le fait remonter et grimpant. Le grimpant, c'est un rosier qui, comme son nom l'indique, il est grand, il grimpe, il fait des... Un remontant, c'est un rosier qui fleurit plusieurs fois dans l'année. Il va commencer vers la fin mai, et puis vers le début de l'été, il va s'arrêter, il va se reposer un petit peu, puis il va redémarrer au mois de septembre. Alors qu'un non-remontant, et ça c'est dans les variétés plutôt anciennes, hein, on a entendu Kaamelott, certainement qu'à cette époque-là, il n'y avait absolument aucun rosier remontant, eh bien voilà, il fleurit énormément au mois de mai-juin, et puis après il s'arrête et on n'en parle plus.
Très bien, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions sur les rosiers. Alors avant de passer au sécateur, qui est votre outil préféré, hein,
Patrick,
rappelons-le quand même, pour quelles raisons faut-il tailler les rosiers, tiens?
Alors déjà chez les buissons, évidemment pour conserver une forme assez compacte, hein, je vous rappelle que les rosiers fleurissant sur des pousses de l'année, dans le, si vous les taillez pas, ils montent, et puis vous avez des fleurs au bout des tiges, et puis ça se dégarnit, c'est pas joli. Répartir aussi la ramure, donc et puis rajeunir. on a aussi ce côté dans la taille. Il faut bien savoir que tailler, c'est aussi privilégier des jeunes branches pour éliminer les plus vieilles.
Mmh.
Chez les grimpants, eux, on va favoriser la mise à fleur, donc en retaillant court. On va aussi faire en sorte de répartir correctement les branches sur le support, et puis on va aussi réguler la croissance, parce qu'un grimpant, si ça part trop fort, ben ça fait des feuilles et pas des fleurs, et puis aussi, comme le buisson, le rajeunir.
Bon, admettons que je ne taille pas, ok, pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui va se passer ?
Bah, si vous taillez pas, ça va pas être joli. En fait, vous allez avoir un rosier qui va devenir très rapidement échevelé, qui va monter avec des fleurs qui vont être en haut. Et puis, quand on fait ça, eh bien, on a des tiges, les pousses les plus vieilles qui se dégarnissent de la base. Donc, vous avez quelque chose qui est vraiment très très laid. Et chez les grimpants, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de végétation délirante parce que vous aurez pas gardé les branches les meilleures. Vous aurez tout gardé. Bah, ça sera un fouillis, un foisonnement. Et puis vous n'arriverez plus à vous en sortir.
Quel est le moment idéal, Patrick, pour tailler les rosiers ?
Alors, le moment, on avait dit, c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant ? Eh bien, parce que il faut que les bourgeons, ce qu'on appelle, nous, les jardiniers, les yeux, soient bien visibles. Et ces bourgeons sont en train de donner des feuilles, mais il ne faut pas que la feuille soit apparente sur la plante. C'est-à-dire que le bourgeon peut pointer, il peut aussi être en train d'éclater, il peut même avoir éclaté un petit peu. Mais quand il y a les feuilles, ça commence à être un peu trop tard.
Alors, si à cause des températures très douces qui viennent de se succéder, les feuilles sont déjà présentes, voire même si elles ne sont pas tombées cet hiver, qu'est-ce que je peux faire ?
Bah, vous allez tailler quand même. Vous allez tailler
on
quand
taille
même.
Quoi qu'il arrive, en fait.
Voilà. Mais, bah oui, parce qu'en fait, la nature nous donne toujours une petite chance de se rattraper. Toutefois, si vous taillez trop tard, si vous oubliez, par exemple, je sais pas, si vous attendez encore 15 jours, eh bien, vous allez avoir un ralentissement de la croissance. Parce qu'évidemment, comme on coupe quand même pas mal sur le rosier, bah, le temps que la plante reprenne un petit peu de force, qu'elle refasse des nouvelles tiges, il va falloir du temps. Donc, vous allez décaler l'apparition des premières fleurs. Il faut savoir qu'en général, les premières fleurs de rosier apparaissent entre 8 et 10 semaines après la taille. Et puis, si ce rosier n'a pas perdu ses feuilles, et ça a été le cas, par exemple, chez nous, même si on est en Essonne, eh bien, écoutez, moi, la plupart de mes rosiers n'ont pas perdu une seule feuille. Mais si vous regardez à l'aisselle de ces feuilles, c'est-à-dire à l'endroit où elles naissent sur la tige, eh bien, il y a un bourgeon qui est en train de se développer. Vous allez donc tailler tout à fait normalement, et puis, après la taille, la vieille feuille, elle va mourir, elle va tomber pour laisser la place à la jeune branche.
Est-ce qu'on taille les jeunes rosiers comme les plus vieux, en fait, de la même manière ?
Alors pas tout à fait, puisque je disais il y a une volonté de rajeunissement. Alors quand vous avez qu'un jeune rosier, il n'a pas beaucoup de tiges, donc vous gardez toutes les tiges. Quand vous avez un vieux rosier, en revanche, vous allez éliminer les vieilles tiges. On voit, c'est une écorce un peu crevassée, plus grisâtre, etc., pour privilégier les jeunes pousses qui, elles, ont une écorce verte. Hein, ça, c'est vraiment important, de manière à avoir une plante qui... en permanence, c'est au mieux de sa forme. Alors, sur les rosiers grimpants, également, on va faire pareil, on va enlever du vieux bois, et donc, sur les vieux, on taille différemment. En revanche, sur les grimpants, les très jeunes, on va les tailler légers, de manière à ce qu'on laisse cette grande ramure se développer au départ.
Très bien, ben voilà ce qu'on pouvait dire concernant les rosiers, la taille des rosiers. Vous êtes très, 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 très nombreux en cette période à nous demander plein de conseils, à poser des questions à Patrick.
Et s'il n'y en a pas eu assez, ben vous allez sur News Jardin TV sur YouTube. On a dû bien faire au moins 3 ou 4 vidéos là-dessus, les grimpants, les rosiers. Il y a tout, quoi.
Y a
donc
tout.
Voilà, vous avez plein de vidéos et vous comprendrez tout sur la taille des rosiers.
Patrick, si on accueillait Jacqueline maintenant,
mais avec 32-16. Plaisir.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour messieurs.
Bonjour Jacqueline, bienvenue avec nous.
Bienvenue Jacqueline.
Merci, merci.
Vous nous appelez de quel endroit, Jacqueline ?
De Toulon, dans le Var.
De Toulon, parfait. Qu'est-ce qui vous arrive ?
Depuis plusieurs années, je tentais de faire des boutures d'hibiscus qui n'avaient jamais réussi. Or, cette année, par miracle, j'en ai 5 qui ont pris, qui sont très mignonnes, que je vous envoyais une photo que j'avais mis dans un pot et sous un sac de plastique perforé. Et je voudrais savoir, au bout de combien de temps je peux les replanter et si je peux espérer que ça va me faire des beaux hibiscus.
Bye. Il faut dès que vous savez qu'ils ont repris, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez que les bourgeons commencent à grossir, que la plante vraiment elle est bien verte, etc. La petite bouture, on va immédiatement la rempoter, la mettre individuellement dans un pot plus grand. Parce qu'en général, le substrat que l'on utilise pour faire de la bouture, c'est un peu comme pour le semis, c'est pas un substrat très très riche, très nourricier. On met beaucoup de sable, on met beaucoup de choses drainantes pour éviter la pourriture. Donc là, maintenant, il va être rapidement important de rempoter, donc dans un substrat, un terreau de rempotage, ça ira généralement. Alors, prenez quelque chose de bonne qualité. Hein. Un terreau de rempotage, c'est un produit qui doit être quand même souple. Quand vous le mettez au creux de votre main et que vous appuyez avec les doigts, il ne doit pas faire une grosse motte bien lourde. Donc, il faut quelque chose comme ça. Et puis, tout va bien. Hein. Alors, en revanche, laissez les hibiscus encore sous abri, hein, parce que même si vous êtes dans le Var, c'est des jeunes plantes, c'est encore un peu frileux, vous les avez bien fait sous le petit plastique, donc laissez tout ça à la maison bien tranquille, dans un endroit le plus lumineux possible, évidemment, parce que c'est la lumière qui est un peu le moteur de la croissance de la plante.
Oui, là où elles ont grandi, c'était dans une loggia, effectivement, qui reçoit le soleil d'est le matin. Et j'affectionne particulièrement, moi, ce qu'on appelle ici le terreau pour agrumes. Et c'est là-dedans que j'ai fait mes boutures. Et ça a très, très bien marché pour la première fois depuis longtemps.
Voilà, ça, le substrat sur une bouture, c'est très très important, mais le fait aussi de les avoir mis un peu à l'étouffer hein, sous le plastique, c'était quand même un peu les secrets de la réussite, il faut quand même le dire. Bon, après, a priori, vous les avez faites en décembre?
Je les ai faites aux environs de début décembre, quand j'ai taillé tous les hibiscus, qui sont d'ailleurs magnifiques, je sais pas si je dois dire malheureusement, parce que ils ont très bien, enfin, ça va très bien, ils sont remplis de petites feuillettes qui commencent à sortir, mais voilà.
Bon, je dirais que décembre, c'est normalement un petit peu tard. L'idéal pour ce type de bouturage, ça serait de les faire fin août, début septembre, mais bon, a priori, ça a marché. Et je rappelle à tout le monde, ça je le dis souvent, le jardinage n'étant pas une science exacte, on essaye de vous donner les meilleurs conseils possibles, mais chacun, parfois, en fait un peu à sa tête, et puis ça donne quand même des résultats. Donc bravo Jacqueline, félicitations, et puis envoyez une petite photo quand ça aura grandi, vous aurez les premières fleurs.
Je vous remercie beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir, merci.
Au revoir, Jacqueline. Et profitez bien de Toulon et du Var. Vous avez bien de la chance. Patrick, on revient dans un instant. Et on va poursuivre ce rendez-vous jardin avec vos questions, bien sûr, jardin, au 32-16. Et on va parler des semences dans quelques instants pour en finir, justement, avec toutes les idées reçues autour des semences. Vos questions, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Ne bougez pas. On est là dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC, 6h-7h.
Aujourd'hui les amis, on va parler des graines, car les semences sont à la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l'humanité.
Votre jardin.
Aujourd'hui, on va prendre les meilleurs d'entre vous. Je ne veux pas voir un maïs qui dépasse. Je veux voir la même taille, la même forme et surtout la même couleur de partout. Partout.
François Sorel, Patrick Mulan.
Ouais. Je rappelle que les graines aussi se fument.
Oui, on dirait.
Et voilà, voilà le résultat. En tout cas, bienvenue, bonne matinée avec RMC. Merci à vous. Peut-être venez-vous de vous réveiller. Installez-vous. Voilà, vous êtes à côté de votre radio. Patrick Mulan est à mes côtés. C'est votre rendez-vous jardin avec vos conseils jardin au 32-16. On va retrouver vos questions dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on va essayer d'en finir avec les idées reçues concernant les semences, Patrick.
Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de polémiques autour de cela. Les semences paysannes, les hybrides, les OGM, les variétés nouvelles, les variétés anciennes. Enfin, tout le monde a ses avis sur tout. Et en fait, souvent, c'est un peu n'importe quoi. Donc, voilà, ouais. Je voulais... C'est le coup de gueule, quoi, voyez, simplement, du matin, comme ça.
Mais très bien. Alors, on y va, c'est parti. Par exemple, tiens, première idée reçue. On entend dire que le choix de variété est de plus en plus restreint aujourd'hui pour les semences. C'est vrai ou pas?
Alors sur les semences, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a une confusion entre l'assortiment de légumes que vous trouvez sur les marchés avec effectivement un nombre de variétés relativement réduit, et puis ce que vous avez la possibilité de faire dans votre jardin, et qui là est considérable, parce que aujourd'hui, par exemple, on a en Europe plus de 100 000 variétés variétés de légumes qui sont préservés dans les conservatoires. Vous avez chaque année, rien qu'en France, on a déjà 3200 variétés de légumes. Il y en avait que 500 en 1971. Mais il y a 150 variétés nouvelles qui arrivent sur le marché en permanence. Alors on dit oui, mais du coup, toutes ces variétés nouvelles, elles sont plus chères, on veut nous pousser à l'achat, et puis on oublie les vieilles. Eh ben c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que les variétés anciennes, elles sont ni oubliées, ni perdues, et elles sont même cultivées régulièrement, et inscrites aussi au catalogue officiel. Donc depuis 1997, vous avez des variétés anciennes qui ont été officialisées. Et il y en a quand même 341 dans le domaine des légumes. Ça fait quand même pas mal, beaucoup plus d'ailleurs que ce que vous pouvez trouver chez vos commerçants au niveau des primeurs.
Au fait, Patrick, c'est quoi exactement une variété ?
Alors là, il faut faire un tout petit peu de botanique. On va dire que une variété, c'est dans une espèce, c'est-à-dire on va dire par exemple chez la tomate, c'est une population de plantes qui présentent les mêmes caractéristiques, donc de couleur, de forme, de port, de hauteur, et qui constituent donc un ensemble homogène. Alors, ça serait, on va dire, un peu des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, si on veut. Et en fait, en agriculture, on prend quoi ? En agriculture, c'est les animaux. On dit que ce sont des races. Par exemple, vous avez la race française frisonne chez la vache, par exemple. Vous savez, chez les chiens, c'est plus facile. Vous avez le berger allemand, vous avez le westie, c'est pas les mêmes chiens. Enfin, ce sont des chiens, mais ce sont des races différentes. Et ben, chez les plantes, c'est pareil. Donc, par exemple, chez la tomate, ben, vous allez avoir la marmande, vous allez avoir la cœur de bœuf, vous allez avoir la rose de Berne, parce que elles ont des caractéristiques identiques.
On parle couramment d'amélioration variétale. En quoi consiste, en fait, cette amélioration? Qu'est-ce qu'on trifouille?
Alors déjà, voilà, ça commence à être déjà tendancieux.
Ben voilà. Non,
on trifouille pas forcément.
On trifouille rien.
Si.
Un peu.
Certains trifouillent, on verra après, mais l'amélioration variétale, elle a commencé pratiquement à la préhistoire, dès que, en fait, l'homme s'est sédentarisé. Et ça a été quoi, l'amélioration variétale? Ben ça a été, justement, dans une population, regardez par exemple l'arbuste qui donnait le plus de fruits. Prendre la plante qui était à la plus tendre. Et puis utiliser ces graines pour améliorer celle-là, pour semer celle-là et pas l'autre. Déjà, c'était, on va dire, la sélection naturelle. Et ça, il y a longtemps, hein, parce que ça commence pratiquement il y a 10 000 ans. Donc déjà, à partir du moment où l'homme est passé du stade de cueilleur au stade agriculteur, c'est-à-dire de culture, eh bien, il a commencé à regarder comment étaient ses plantes et il a choisi les meilleures. Alors maintenant, effectivement, pour aller dans votre sens, mon cher François, on s'amuse quand même.
Oui.
Enfin, on s'amuse. Ce sont des gens très sérieux. Les gens qui sont des sélectionneurs sont des scientifiques pour la plupart et qui, en fait, sont capables de repérer dans des champs. Par exemple, vous avez un champ de pois ou de haricots. Eh bien, ils font des sélections en permanence. Ils vont regarder quelles sont les meilleures et là, ils vont aussi utiliser ça. Mais là, ils vont trifouiller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont se dire, tiens, celui-là, il est résistant aux maladies. Ah, je me le garde. Et puis, oh, celui-là, il est très très bon. Il nous fait vraiment des super légumes. Mais ben, on va les marier. Ben, on va pas laisser la nature le faire. Moi, je veux ceux-là. Donc, on va les marier nous-mêmes. Donc là, on commence à faire ce qu'on appelle des hybrides. Mais parce qu'on les crée nous-mêmes. Mais quand on fait des roses, c'est la même chose, par exemple. Donc, c'est très, très important de voir cette amélioration, parce que on a cherché quoi? On a d'abord cherché la production, c'est sûr. On a cherché que les plantes soient plus productives, et le blé d'aujourd'hui est à peu près 100 fois plus productif qu'il l'était au début du siècle. Bon. Mais on a cherché aussi, et on cherche toujours, la résistance aux maladies. Et ça, c'est très, très, très important.
Alors, autre idée reçue. Les variétés nouvelles sont plus fragiles que les variétés traditionnelles, Patrick.
Eh ben, justement pas. Puisque ce que je vous dis, c'est que ce que l'on recherche maintenant, en premier lieu, c'est déjà la résistance aux maladies. Et de plus en
Alors,
plus...
Alors, c'est peut-être même l'inverse.
Alors, oui, d'une manière générale, on va dire oui. Alors après, il y a une question aussi de sophistication. Et puis, souvent, il y a des gens qui se trompent. On va reprendre la tomate. Vous avez des tomates dont les variétés sont faites pour les professionnels qui les cultivent en serre. Si vous achetez des graines de ces variétés de tomates et que vous les mettez dans votre jardin, alors qu'elles sont faites pour aller en serre, dans des milieux qui sont vraiment protégés, etc., bah vous allez vous dire, oh là là, elle est fragile, elle attrape toutes les maladies du monde, etc. Donc il faut aussi que la variété que vous choisissez soit adaptée à vos besoins. Et ça va plus loin, parce que vous avez des variétés, par exemple chez les salades, chez les laitues, vous avez des laitues de printemps, vous avez des laitues d'été, d'automne, d'hiver. Et donc il faut bien choisir la bonne variété pour le bon moment. Mmh. Et ça, c'est facile parce que obligatoirement, sur les sachets de graines que vous achetez dans votre jardinerie, il y a un petit calendrier de semis tout bête. Hein, c'est simplement une ligne sur lequel on a mis en couleur les périodes auxquelles il faut semer. Donc, si vous achetez en ce moment, au mois de mars, des graines de laitue et vous voyez qu'il faut simplement les semer en octobre, eh ben non. Alors, vous pouvez les acheter, mais vous les semerez qu'en octobre. Il faut acheter en ce moment celles qui se sèment en mars, évidemment.
Patrick, autre idée reçue. Les plantes hybrides et les OGM, c'est la même chose.
Alors, surtout pas. Surtout pas. L'hybride, je vous ai expliqué ce que c'était. L'hybride, c'est, en fait, c'est faire un croisement. Donc, de prendre une plante qui va servir de père. Donc, on doit utiliser le pollen de ses fleurs. Et une autre plante qui va servir de mère. Donc, on va utiliser le pistil de sa fleur. Et prendre donc le pollen de la plante père, le poser sur le pistil de la plante mère pour que ça nous fasse des graines que l'on a, entre guillemets, un peu contrôlées. C'est-à-dire qu'on se dit, globalement, dans la descendance, je vais obtenir la qualité des deux parents. C'est pas toujours vrai, il faut bien le dire, et donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut imaginer, ça demande des années. Parfois, un rosier, par exemple, il faut bien 8 à 10 ans, largement, pour trouver un nouveau rosier de qualité. Un OGM, c'est autre chose. Un OGM, alors d'abord, oui, il faut pas non plus amalgamer avec les biotechnologies, parce que aujourd'hui, on a tellement d'informations sur le patrimoine génétique des plantes, qu'on est capable de savoir quels sont les gènes qui sont transmis par ces plantes et surtout quelles sont les caractéristiques particulières que certains gènes transmettent. Donc on est capable aujourd'hui donc de faire des croisements très orientés, surtout sur les légumes ou sur les fleurs. En revanche, un OGM, c'est quoi? C'est une plante dans laquelle, là, on va introduire un élément du code génétique, c'est-à-dire un élément d'ADN qui peut venir d'une plante, mais qui peut venir d'un animal, qui peut venir de n'importe quoi, pour obtenir un effet très, très particulier. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a sur le marché énormément d'hybrides. En général, il y a un X, ça faut savoir, tiens d'ailleurs, je le dis pas assez souvent. Quand vous avez une plante sur laquelle est marqué X, ça veut dire que c'est un hybride. Quand vous avez sur les légumes ou sur les fleurs, dans les sachets de graines, une plante dont il y a marqué F1, et oui, ce sont des hybrides de première génération. Alors, ce sont des techniques qui sont récentes, les OGM, alors que les hybridations, ça remonte au 19e siècle. On a déjà fait des rosiers hybrides, par exemple, au début même du 19e siècle. Donc, faut pas avoir peur des hybrides. Voilà, c'est important.
Très bien. Quelle qualité particulière offrent justement les hybrides?
Alors, quand je vous parlais F1, donc qui veut dire hybride de première génération, vous avez obligatoirement des qualités qui sont meilleures que celles des parents, parce que le croisement des deux produit un phénomène qu'on appelle l'hétérosis et qui donne à la fois une meilleure vigueur, donc plus de rendement en général. Ça, c'est la première chose qu'on essaye de trouver, notamment en agriculture. Et aussi, vous avez une sorte d'homogénéité. Alors, cette homogénéité, je suis d'accord pour dire que dans le jardin amateur, sur les légumes, c'est pas forcément un avantage. C'est-à-dire avoir, par exemple, des haricots verts qui produisent tous au même moment, ou des laitues qui vont être toutes identiques, etc. C'est pas forcément ce qu'on recherche. En revanche, sur les fleurs, ça a un atout majeur. C'est-à-dire que vous allez avoir, dans vos massifs, une régularité qui va vous permettre de créer, justement, des motifs. Vous allez avoir une assurance d'avoir de la floraison. Alors, que nous apportent, en revanche, les hybrides sur les légumes? Eh bien, vous allez avoir des qualités gustatives accrues. Par exemple, les melons d'aujourd'hui, en hybride, ont des chairs plus juteuses, plus fondantes, plus sucrées. Vous avez, les carottes ont perdu le cœur dur qu'elles avaient dans le temps. Vous avez une carotte beaucoup plus tendre. Vous avez des concombres sans pépins, qui sont pas amers. Donc tout ça sont des éléments qui ont été apportés par l'hybridation, et qui fait partie donc de ce qu'on disait depuis tout à l'heure, la sélection.
Depuis le temps, Patrick, que l'on pratique l'amélioration variétale, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore obtenu la plante parfaite?
Eh bien parce que même si elle est hybride, même si elle a été un peu manipulée par les généticiens, ça reste un être vivant qui vit dans un milieu naturel, le milieu qui est notre jardin, même si lui non plus n'est pas 100% naturel, et qui est soumis à plein d'aléas, notamment des conditions climatiques particulières, des sols différents. Il y a aussi des ennemis et des maladies qui, eux, évoluent en même temps que les plantes. Il faut bien le savoir, c'est que par exemple, si vous prenez des virus, eh bien, si vous vous intéressez à ça, vous verrez qu'il y a des virus de race aussi, 1, 2, 3, 4, 5, et qui en fait semblent évoluer en même temps que les plantes. Et puis également, il faut le savoir, ça c'est extrêmement important, c'est que les goûts changent et que les carottes d'hier, par exemple, tiens, on va prendre les endives. Les endives, il y a 15 ans, c'était de la chicorée amère légèrement améliorée. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez quand même le goût amer et la plupart des enfants détestaient les endives. Aujourd'hui, les endives hybrides sont des légumes dont la saveur est assez douce. C'est terminé, ça. On a vraiment réussi à sélectionner ça. Donc, c'est vraiment important et ça va évoluer encore parce que les goûts peuvent changer à un certain moment. On voudra peut-être des plantes, par exemple, on voudra peut-être des carottes qui n'ont plus de sucre, puisqu'on est obnubilé aujourd'hui par ça, etc.
Bien sûr,
ça va évoluer. Et n'oublions pas aussi la distribution, parce que en fait, les variétés sont souvent créées pour les professionnels, et donc la facilité de récolte, la facilité de transport, tout ça joue un rôle extrêmement important dans la création d'hybrides.
Bon, écoutez, je crois qu'avec tout ça, vous en avez pris de la graine, c'est le cas de le dire.
Un petit peu.
Patrick, on revient dans un instant et on va poursuivre ce rendez-vous jardin. Vos questions, que faire au jardin ce week-end, les coups de cœur de Patrick Miolan. Voilà ce qui vous attend au menu. Merci d'être là en tout cas. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Miolan.
Un bonjour à vous. Vous venez d'arriver sur RMC, bien écoutez, bienvenue. Jusqu'à 7h, c'est votre rendez-vous jardin. Et puis ensuite, ce sera la maison avec Christian Pesset, bien entendu. Pour ce dernier petit quart d'heure, nous allons retrouver vos questions au 32-16. Ce sera aussi notre rendez-vous Que faire au jardin ce week-end, les coups de cœur de Patrick. Mais dans l'immédiat, nous accueillons Pierrick qui est là. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Bienvenue Pierrick sur RMC.
Bonjour Pierrick, bienvenue, je vous écoute.
Vous êtes dans le Gard, Pierrick, c'est ça, hein?
Exactement, à Méjean-et-les-Alès.
Parfait. Alors, parlez-nous de vos oliviers.
Je ne sais pas si vous avez reçu les photos que je vous ai envoyées.
Si, si, je les ai vues, oui.
J'ai acheté 10 oliviers que j'ai fait un bon coup au mois de novembre. Je les ai plantés le jour de la Sainte-Catherine. C'était un dimanche.
Oui, bah, on dit à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine.
Mais là, je sais pas si ça a bien pris racine, parce que les feuilles, les branches se dessèchent à vue d'œil, quoi. Elles perdent tout leur vert. Et ça s'est fait depuis 3 semaines, là.
C'est quel
depuis
type de sol
J'ai l'impression qu'ils s'assèchent, je sais pas si
c'est
pas ça.
C'est quel type de sol que vous avez
Eh ben alors moi, les oliviers, je les ai achetés dans un sol sablonneux, à côté d'Aigues-Mortes. Et là, chez moi, c'est un peu plus argileux.
Oui, alors, le problème, c'est un peu ça, c'est que l'olivier aime pas du tout les terres qui retiennent l'eau.
Ouais.
Alors, c'est vrai que là, il y a un moment où il a pas plu, donc on peut pas dire ça, ouais, mais quand même, depuis la Sainte-Catherine, il a quand même pas mal plu. Donc, la base de la réussite d'un olivier, c'est le sol drainant. Ça pousse extrêmement bien dans les cailloux, dans les terres qui ne retiennent pas l'eau. Donc ça, il faut voir au niveau de la plantation elle-même, du travail du sol qui a été fait, de la taille des trous aussi.
Je les ai fait à la pelle, avec une pelle. Alors du coup, ils sont vachement larges. J'ai pas mal foisonné la terre pour que justement les racines ne quichent pas.
Bon, moi, je serais pas non plus complètement inquiet. Quand vous les avez plantés, ils étaient à racines nues, ils étaient dans des belles mottes.
Non, c'était racines nues. Hein,
oui, alors donc voilà, le problème, il est là. Hein, c'est vous avez une plante qui a des plantes qui ont hyper stressé. Elles ont été arrachées un peu brutalement, alors que normalement,
c'était dans une oliveraie, donc ça a été touché au tracteau et
bah oui,
ça c'est qu'elles n'ont pas apprécié.
Il faut être doux avec les plantes, surtout quand elles ont des feuillages persistants. Donc ce qui va se passer, à mon avis, c'est que la plante donc qui est en train de bien stresser, elle va se débarrasser de son feuillage. C'est ce qu'elle est en train de faire déjà. Bon, il y aura certainement des petites branchettes qui vont se dessécher, etc. Pour l'instant, pas d'inquiétude. A priori, il y a le retour des pluies qui a commencé et puis qui est prévu maintenant. Donc
chez nous, il fait bon là encore.
Oui, alors si vous sentez que le sol est vraiment très très sec, que la plante a besoin quand même d'être un petit peu arrosée, n'hésitez pas à lui donner un peu d'eau. Là, il faut qu'on l'aide en ce moment. Hein. Faut lui permettre de repartir un petit peu. Éventuellement, pourquoi pas faire un paillage organique avec un bon substrat, un bon compost. Même si l'olivier pousse dans des terres très pauvres habituellement, mais là, ça lui gardera un petit peu de fraîcheur en surface, etc. Et puis, on attend. On peut rien faire d'autre de toute façon. Donc laissez-le.
Et il y a pas, j'ai pas besoin de les faire tailler hein, quand on arrive au moment de la taille.
Ah ben attendez, vous allez pas encore les stresser en plus avec les ratiboisant au sécateur. Non. Là, vous avez des convalescents. Donc les convalescents, on les bichonne, on les met au calme, on les agresse pas, et puis on les laisse repartir doucement, se réveiller
là,
lentement.
Un cycle de plus.
Comment?
Je laisse passer un cycle de plus.
Voilà. Normalement, vous les laissez tranquilles pendant toute cette année. Donc, ils vont peut-être être très moches, etc. Mais ils vont refaire, normalement, leur végétation. Et parfois, il faut même 2 ans, hein, ça arrive, pour que la plante, elle accepte ça. Parce qu'encore une fois, sur des arbres, hein, même si les oliviers se transplantent quand même très bien. Mais généralement, on les transplante en motte, comme toutes les plantes à feuillage persistant.
Oui. Hein?
Alors il y a autre chose aussi, c'est que si jamais vous deviez avoir des périodes très chaudes, très très sèches, vous pouvez éventuellement vaporiser à l'eau le feuillage. On va doucher le feuillage quand il a fait chaud et sec, de manière à ce que justement ce feuillage qui est en train de se refaire, ben il se reflétrisse pas, parce qu'en fait, si la plante a pas un peu d'humidité atmosphérique, ben les feuilles elles ont du mal, si vous voulez. Bon, même si chez l'olivier, la feuille, elle est coriace, donc ce qui lui donne aussi une bonne résistance. Mais là, encore une fois, vous avez des convalescents, donc il faut les bichonner, les dorloter, et ça va redémarrer. Vous inquiétez pas.
Ça va repartir, c'est bon, vous me rassurez.
Oui. Oui.
Eh bien voilà, Pierrick. Pas de
Merci.
Stress. Tout va bien.
Merci, Louis.
À bientôt.
Bonne journée.
Bon après-midi.
Voilà. Tout comme Pierrick, vous avez une question. Un problème, vous voulez joindre Patrick, n'hésitez pas, 3216, l'appli RMC dit Rextudio.
Pierrick est déjà en pleine forme, il est bon après-midi.
Oui, c'est ça. Mais parce qu'il est déjà il a un coup d'avance, Pierrick. Allez, on enchaîne maintenant sur notre rendez-vous, vous le savez, les conseils que Patrick va nous donner en matière de jardin pour ce week-end. Alors même si c'est pas encore le printemps, Patrick, bon, ben on s'y rapproche tranquillement, hein, ça c'est clair. Hein.
Oui, alors là, on devrait avoir une semaine assez typique du mois de mars, hein, avec des températures matinales qui vont rester sans doute entre 2-3 degrés dans le nord, 9 degrés dans le sud, et avec des températures printanières dans la journée entre 8 et 16 degrés en moyenne. Et puis, il y a des giboulées de mars quand même qui sont annoncées un petit peu sur toute la France. Donc on va être exactement dans la configuration habituelle de cette saison.
Alors, on peut commencer à remettre le nez dehors tranquillement et à s'intéresser au jardin.
Eh bien oui. Il y a les tailles de tout ce qui a été. Bon, on a parlé tout à l'heure des rosiers, mais aussi toutes les plantes, les arbustes à floraison estivale. Il y a aussi les glycines, les clématites, les mimosas qui ont terminé leur floraison pour certains ou la plupart. Pareil, bon, ce que nous disait Pierrick, il a raison, c'est aussi la période de taille des oliviers. Même s'il n'y a pas péril, on peut tailler les oliviers quand même jusqu'à la mi-avril. Les lauriers roses, épithosporum, tout ça, allez hop, on sort le sécateur et on y va. Et puis, c'est aussi la période des plantations. Là, vous allez commencer, alors dans les régions à climat doux, même les dahlias, les glaïeuls, on en voit déjà. Alors j'allais dire malheureusement, c'est vrai, parce que je trouve que souvent, ils sont mis en marché un petit peu tôt. Mais tant pis, bon, surtout si vous êtes dans le sud, avec un sol léger, les crocosmia aussi, tout ça, les lisses, vous pouvez planter. Alors, faites-vous plaisir avec les fraisiers, parce que c'est vraiment une plante qu'il faut avoir dans tous les jardins, ça c'est très très facile. Petits fruits, framboisiers, cassissiers, groseilliers, vignes, tout ça, ça se plante en ce moment, les conifères, les arbustes à feuillage persistant. Donc vous avez un boulot d'enfer, évidemment, parce que là, on prépare toute la saison à venir. Et donc, s'il ne pleut pas beaucoup dans votre région, rhododendrons, hortensias, camélias, ont besoin d'être arrosés assez régulièrement, notamment aussi toutes les plantes qui portent des boutons floraux. Il y a aussi des camélias qui fleurissent en ce moment. S'ils sont pas encore épanouis et qu'ils ont sec, eh bien, ils risquent d'avoir des boutons qui tombent de façon prématurée. Et puis, bien sûr, bon, on n'est pas encore au printemps, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est déjà le nettoyage. On fait un peu la préparation du nettoyage de printemps, donc il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire.
Voilà, et moi j'ai mon bel érable qui commence tout petit, des petits bourgeons comme ça qui commencent à arriver.
Mais non, mais ça,
voilà, alors, ça se réveille.
Lui, c'est pareil, il faut pas qu'il manque d'eau.
Non, il faut pas qu'il manque d'eau. Ça, c'est clair. Donc, je l'arrose beaucoup, beaucoup.
Bah oui, bon, là, a priori, normalement, vous devriez avoir un petit peu d'eau naturelle.
Oui, il y a de l'eau naturelle, c'est clair. En plus, comme il n'a pas de feuilles, on sait que l'eau tombe à peu près au bon endroit, c'est ça.
Exactement, quand on est en terrasse ou des cultures en bac comme celle de François, il est évident que tant que la végétation n'a pas démarré, donc là, les pluies sont profitables, elles arrivent directement sur le sol. En revanche, dès que les feuilles vont avoir couvert l'ensemble de la ramure, bah, qu'est-ce qui se passe ? La pluie, elle va ruisseler sur le feuillage et généralement, elle n'arrive pas au pied. Donc, c'est pas parce qu'il pleut en saison qu'il faut pas arroser les plantes en pot. On reviendra là-dessus.
Voilà, mais là, en ce moment, comme il n'y a pas de feuilles, on peut y aller tranquillou.
Voilà.
Patrick, pour terminer ce week-end des experts jardins, eh bien, on s'intéresse à vos coups de cœur avec, pour débuter, cette opération, donc une jonquille pour Curie, dont c'est la 15e édition cette
année. Voilà, c'est pour l'Institut Curie, donc l'Institut pour la recherche contre le cancer. Donc, vous avez notamment donc les jardineries Truffaut qui vont se mobiliser et qui ont offert à l'Institut Curie 17 000 pots de bulbes et de jonquilles en fleurs qui vont être vendus partout en France par des bénévoles. Ils auront un t-shirt, il y aura marqué les jonquilles pour Curie. Et puis, dans les magasins, si vous avez donc des bouquets à 2 €, bien il y aura 1 € qui sera reversé à la Fondation Curie. De même, si vous avez aussi un sac spécial chez Truffaut qui s'appelle le sac Curie, 3,50 €, 1 € pour Curie. Et jusqu'au 31 mars, vous aurez la possibilité, quand vous passerez en caisse dans le magasin, on vous demandera, la caissière vous dira, est-ce que vous voulez arrondir le montant de vos achats à l'euro supérieur? C'est pas grand chose, ça fait quelques centimes, mais multiplié par le nombre de personnes qui passent en caisse,
et bien
l'année dernière, il y avait eu pratiquement 30 000 euros quand même qui ont été reversés à l'Institut Curie, donc c'est pas du tout négligeable, donc pensez-y, c'est sympa, et puis bon, un bouquet de jonquilles aussi, c'est le printemps avant l'heure.
Voilà, et puis on salue Truffaut pour cette belle initiative.
Ouais, ça fait 15 ans qu'ils le font.
C'est très bien.
Et puis, un petit bouquin pour terminer, un livre qui s'appelle « Prenez-en de la graine » de Patricia Beuchère. Donc, on a parlé graines, on a parlé semences. Alors, elle est totalement opposée à tout ce que je vous ai raconté parce qu'elle estime que les multinationales s'approprient notre patrimoine commun et elle vous dit « Faites vos graines vous-même ». Et donc, elle vous explique pour 100 plantes comment faire de la graine à la graine pour reproduire ses légumes, ses céréales et ses fleurs. Ça s'appelle Prenez-en de la graine. C'est de Patricia Beuchère. C'est chez Ulmer. Ça coûte 22 €.
Parfait.
Sans rancune, vous voyez.
Bah écoutez, non. non. Mais voilà. Ce week-end des experts jardins est terminé, Patrick. Merci encore. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Patrick Mulan sur la page Facebook, de votre jardin sur RMC, sur New Jardin TV, votre web TV.
Où il y a plein de vidéos.
Voilà, plein de vidéos. Et puis, tiens, si vous avez raté, par exemple, le début de cette émission parce que vous êtes réveillé un petit peu tard, ou un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que là, il est vraiment, bon, voilà, que là, bientôt 7 h, ça va.
Voilà, on a le droit au début de la journée. La grasse mat.
Vous pouvez réécouter ce rendez-vous via l'appli RMC, sur, donc, votre smartphone. Il y a le podcast, que vous pouvez télécharger, bien sûr, et écouter quand vous le voulez, à l'envie.
Les jardiniers, je vous embrasse, et ma petite jardinière aussi, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine.
Et dans un instant, après la météo, les infos, l'actu sport, ce sera la maison et Christian Pesset qui me rejoint. Vous restez avec nous. À tout de suite.